VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'être avec moi, Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. C'est votre rendez-vous du monde aujourd'hui, édition du 3 avril 2017, la deuxième de la soirée. D'abord le sommaire. Grève générale en RDC largement observée dans plusieurs villes du pays. Parallèlement, le président Joseph Kabila consultait la classe politique pour l'application de l'accord du 31 décembre.
Même certains services de l'État ont eu du mal à ouvrir.
Et vous entendrez Thierry Kambundi à Kinshasa. 44 diplomates africains reprochent à l'Inde de ne pas protéger assez des Africains victimes de multiples agressions racistes. Fin hier de la première phase de la conférence d'entente nationale au Mali, mais la question du statut de l'Azawad reste posée.
Si on veut la paix, il faut admettre la réalité. La réalité, c'est que tant que l'Azawad n'a pas un statut juridique et politique, il n'y aura pas de paix.
Vous retrouverez Kassim Traoré en seconde partie de cette édition. Tête à tête à la Maison Blanche entre les présidents égyptiens et américains pour évoquer la lutte contre le terrorisme. Et vous suivrez l'économie et les sports. Bienvenue chers auditeurs et merci pour votre fidélité sur VOA Afrique. Je vous le disais dans les titres, la vie tournée au ralenti aujourd'hui à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC. La population suivait le mouvement de grève générale lancé par l'opposition pour exiger du président Kabila l'application de l'accord du 31 décembre. De son côté, M. Kabila consultait la classe politique pour tenter de trouver un compromis. Les explications de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
École, bureaux, magasins, boutiques et autres commerces fermés, circulation des véhicules à peine visible sur la chaussée, c'est le visage qu'a affiché la ville de Kinshasa le matin de ce lundi 3 avril 2017. Même certains services de l'État ont eu du mal à ouvrir. Ceux qui ont ouvert ont reçu moins de monde que d'habitude. Les activités ont tourné au ralenti dans la matinée également à Mbujima et à Kananga dans le Grand Kasaï, ainsi qu'à Matadi dans le Congo central où le port, principale attraction commerciale de la ville, était paralysé. À l'est par contre, l'appel à la ville morte du rassemblement a été diversement suivi. Si à Goma et à Bukavu tout a quasiment tourné normalement, les activités étaient cependant paralysées dans la matinée à Beni et à Butembo où seules quelques banques et stations-service ont ouvert. Lubumbashi, quant à elle, n'a pas suivi le mot d'ordre de l'opposition. La plupart des magasins et marchés ont ouvert comme à l'accoutumée et le transport en commun était visible dans la ville. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours dans ce géant des Grands Lacs, des enquêteurs de l'ONU ont découvert 13 nouvelles fosses communes dans le centre du pays. Toutefois, le bureau de l'ONU aux droits de l'homme ne pouvait pas déterminer le nombre de victimes contenant dans les charniers. Mais comme l'indique son directeur, le nombre est passé de 10 fosses communes à 23 dans le Kasaï. Depuis septembre, des violences meurtrières opposent les forces de l'ordre et une milice. Pour rappel, deux enquêteurs de l'ONU dans la région ont été également enlevés le mois dernier et tués. Et dans la partie australe du continent, fin aujourd'hui de la campagne électorale pour les élections législatives en Gambie, prévue au 6 avril et marque les premières depuis la chute de Yahya Jammeh qui avait dirigé ce pays d'une poignée de fer pendant plus de 22 ans. Le Maghreb, en Tunisie, la commission électorale a enfin annoncé la tenue des premières municipales de la pré-révolution au 17 décembre prochain. Ce scrutin était attendu de longue date pour consolider la transition démocratique. Et en Afrique du Sud, le pays arc-en-ciel, les principaux partis d'opposition en conclave aujourd'hui pour réclamer un vote de défiance au Parlement contre le président Jacob Zuma. C'est à la suite d'un vaste remaniement ministériel controversé qui a coûté son poste au respecté ministre des Finances Pravin Gordhan. Dans les relations entre l'Afrique et l'Inde, les diplomates de 44 pays africains ont accusé aujourd'hui New Delhi de ne pas prendre les mesures nécessaires face aux agressions racistes répétées dirigées contre les Africains. Solange Nyamulisa.
Une semaine après l'agression d'étudiants nigériens près de New Delhi, les ambassadeurs africains ont accusé le gouvernement indien de ne pas suffisamment condamner ces attaques à caractère xénophobe et raciste. Les chefs des représentations africaines ont appelé à une enquête indépendante menée par des groupes de défense des droits de l'homme, dont le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les vidéos de certains incidents ont été diffusées sur les réseaux sociaux et ont déclenché un tollé mondial. La police a arrêté 6 suspects pour ces violences auxquelles des centaines de personnes avaient pris part. Les Africains en Inde, dont de nombreux étudiants, font régulièrement objet des vexations et d'humiliations. L'an dernier, un jeune Congolais avait été tué à coups de pierre et de briques à New Delhi après une querelle pour un taxi rickshaw.
Solange Nyamouris, les gardes-côtes libyens ont secouru pendant le week-end plus de 150 migrants et tentaient de traverser la Méditerranée clandestinement pour rejoindre l'Europe à bord d'un grand canot qui prenait l'eau. Ils sont notamment originaires de la Syrie, du Maroc, du Pakistan et du Ghana. L'armée égyptienne a annoncé hier la mort d'un des cadres fondateurs de la branche du groupe État islamique dans le nord du Sinaï. Abu Anas al-Ansari a péri dans un récent raid aérien. Un forum africain à Khartoum attire l'attention sur la menace djihadiste grandissante sur le continent. Des responsables de la sécurité et du renseignement d'une trentaine de pays africains en conférence aujourd'hui dans la capitale soudanaise évoquent la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire exécutif du Comité africain des services de renseignement et de sécurité indique qu'environ 20 à 40% des combattants terroristes étrangers retournent dans leur pays d'origine en provenance de l'Irak, la Syrie ou ailleurs. Et plusieurs de ces combattants voyagent facilement en Afrique avec leurs passeports occidentaux ou étrangers. Selon des rapports, des pays comme le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso sont les plus visés par le groupe État islamique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Abdel Fattah el-Sissi. Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer leurs liens dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont aussi discuté du conflit israélo-palestinien. Claire Morin-Gibourg.
Nous sommes clairement derrière le président Sissi. Nous sommes clairement derrière l'Égypte et le peuple égyptien, a déclaré M. Trump depuis le bureau ovale en recevant son homologue égyptien qui effectue sa première visite à la Maison-Blanche. Le président américain n'a pas évoqué la question des violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse qui étaient régulièrement soulevées par l'administration de Barack Obama. Assis à ses côtés, le président égyptien a exprimé son admiration pour la personnalité du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Le président égyptien, dont les propos étaient traduits par un interprète, a affiché sa volonté de travailler avec le président américain sur une stratégie efficace de lutte contre le terrorisme. L'administration Obama avait gelé son aide militaire à l'Égypte en 2013, après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi de l'Égypte, pays arabe le plus peuplé, ce qui avait poussé la Maison-Blanche à infléchir sa position en 2015.
Une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait une dizaine de morts et des dizaines de blessés. Dans la foulée, les autorités russes ont ouvert une enquête pour actes terroristes, n'est-ce pas, Morgan Kiriek?
Oui, alors la rame touchée par l'explosion se trouvait entre deux stations d'une ligne fréquentée de la deuxième ville de Russie. Peu après, une autre bombe artisanale a été désamorcée dans une autre station. Une enquête a été ouverte pour actes de terrorisme. Le président Vladimir Poutine, qui se trouvait à Saint-Pétersbourg, a déclaré qu'aucune piste n'est écartée. Les autorités ont annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans le métro de Moscou et les aéroports. Et la municipalité de Saint-Pétersbourg a décrété 3 jours de deuil. Du côté de Washington, le président américain Donald Trump a dénoncé une chose horrible. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a présenté ses condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. Le groupe État islamique avait appelé à frapper la Russie au début de son intervention pour soutenir les forces de Bachar al-Assad en Syrie en septembre 2015. 2015. Un mois après, un avion reliant l'Égypte et la Russie avec 224 personnes à bord avait explosé au-dessus du Sinaï. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique.
Morgan Guiriek. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé aujourd'hui que son pays allait lancer de nouvelles opérations antiterroristes en Syrie. Pourtant, Ankara avait mis fin la semaine dernière à l'offensive bouclier de l'Euphrate, lancée le 24 août dans le nord de la Syrie. Voilà pour votre journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou a inauguré hier, près de Niamey, une centrale électrique diesel qui devrait réduire les fréquentes coupures d'électricité dans la capitale. Au coût de quelque 80 milliards de francs CFA, la nouvelle centrale produira 80 mégawatts dans une première phase, puis 100 mégawatts à terme. D'après la société nigérienne d'électricité, riche en uranium, le Niger importe depuis plusieurs décennies l'essentiel de son électricité du Nigeria, avec des perturbations pouvant priver Niamey de courant pendant des journées entières. Au Maroc, les travaux viennent de démarrer pour compléter le projet Nour, une gigantesque station solaire près de Ouarzazat, aux portes du désert. La centrale, au coût de 75 millions de dollars environ, aura une capacité de production de 72 mégawatts, pouvant subvenir aux besoins de 17 000 foyers. Elle produira de l'énergie électrique directement à partir du rayonnement solaire. Après une légère régression, l'économie mauricienne doit connaître une croissance de 3,8% cette année grâce à un rebond dans les secteurs manufacturiers et de la construction. D'après l'Institut mauricien des statistiques, ce sont le textile et l'agroalimentaire qui devraient stimuler l'industrie manufacturière, alors que les investissements publics et privés soutiendraient la construction.
De l'économie, nous passons directement au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous.
On commence par le football. Hugo Boss, convoqué par le gouvernement camerounais.
L'organisation, ou plutôt la désorganisation des Lions Indomptables tournerait-elle à l'affaire d'État au Cameroun suite aux déclarations? Après la défaite face à la Guinée 2-1, le sélectionneur Hugo Brousse va entendre ses oreilles siffler ce lundi puisqu'il y a une réunion en cours du comité exécutif de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. On se souvient que le technicien belge qui avait dénoncé l'incompétence de certains encadrants et évoqué la possibilité de quitter son poste, affaire à suivre.
Et on reste au Cameroun, Nico, avec cette bonne nouvelle pour Rigobert Song.
Retour au bercail et en parfait état de santé pour le footballeur camerounais Rigobert Song. En octobre dernier, souvenez-vous, l'ex-capitaine des Lions Indomptables avait été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant nécessité une évacuation sanitaire en France. Après 7 mois, il a retrouvé son pays natal où de nombreux fans sont venus l'accueillir à l'aéroport de Yaoundé. C'était samedi dernier.
Toujours football, côté justice, et on reparle corruption à la FIFA.
L'ancien patron du foot guatémaltèque, Brian Jiménez, a écopé d'une suspension à vie pour son implication dans le scandale de corruption de la FIFA. Décision de la chambre de jugement de la commission d'éthique de l'instance mondiale du football. L'ancien président de la fédération guatémaltèque, âgé de 62 ans, a plaidé coupable notamment des chefs de conspiration en vue d'extorsion de fraude en lien avec des pots de vin reçus en échange de l'octroi des droits médias et marketing portant sur des matchs de qualification de l'équipe du Guatemala pour les Coupes du Monde 2018 et 2020. 22.
En athlétisme, on parle du dopage, une substance interdite découverte dans les urnes.
L'Agence mondiale antidopage critique le CIO et l'AMA pour n'avoir pas enquêté après la découverte de clambutérol, un produit interdit dans des échantillons d'urine de sprinteurs jamaïcains lors des Jeux Olympiques 2008, c'était à Pékin. Le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage ont reconnu avoir classé ces cas en raison de faibles dosages, attribuant cette présence du clambutérol à une probable consommation de viande contaminée. Les sprinteurs jamaïcains emmenés par Usain Bolt au sommet de son art avaient remporté 5 médailles d'or à Pékin. Les vainqueurs du relais 4 x 100 mètres masculin, dont Bolt, ont cependant dû rendre en janvier leur médaille d'or après le test positif de l'un d'entre eux, Nesta Carter, à un stimulant, et ce 8 ans après les Jeux.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain, Nico.
Golden State a aligné une 11e victoire consécutive en écrasant Washington 139 à 115 hier grâce à sa star Stephen Curry en grande forme à 2 semaines du début des playoffs. Les Warriors ont une avance de plus de 3 victoires sur leurs dauphins et grands rivaux de San Antonio, vainqueur hier de Utah, 109 à 103.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique pour aborder les dossiers de ce soir. Au Mali, clôture hier de la conférence sur la réconciliation à l'issue de 7 jours de débat. Un rapport a été remis au président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il a décidé de mettre en place un comité des sages pour trancher définitivement la question de l'Azawad et examiner la situation de conflit dans le centre du pays. À Bamako, Kassim Traoré vous donne son compte-rendu.
Ça a été une semaine de débats, d'échanges autour de l'unité nationale, la réconciliation et la paix. Aliou Nioune Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali.
Il faut réellement qu'on réfléchisse beaucoup et qu'on n'aigrisse pas des choses pour nous faire plaisir, nous-mêmes. C'est comme ça même qu'on ne pourra pas appliquer et après on va dire c'est le gouvernement qui n'a pas pu appliquer. Je partage entièrement ce que l'ancienne ministre, Madame Sikadjoso, a dit. Toujours on croit que quand on dit appliquer, c'est seulement le gouvernement. Qui empêche aujourd'hui l'application? Ce sont les groupes armés. Donc il faut qu'on examine les problèmes à fond. Évitons de nous raconter des histoires. Tant que nous raconterons des histoires, nous ne pourrons pas nous entendre.
Hésitante au début des travaux, l'opposition malienne a fini par rejoindre le train de l'entente nationale avec ses propositions. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
L'opposition politique réaffirme que la seule solution pacifique, viable et inclusive de résolution de la crise multiforme que connaît notre pays passe par la tenue d'une concertation nationale inclusive, regroupant l'ensemble des forces vives de la nation autour des problèmes institutionnels de défense, de sécurité, de gouvernance et de développement.
La conférence d'entente nationale a évoqué aussi la question de l'Azawad. Noum Sangaré, rapporteur général de la conférence.
Ce qui est ressorti des débats, c'est que, un, le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad au plan administratif ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Par contre, la conférence a reconnu que l'appellation Azawad recouvre une réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique partagée par certaines populations du Nord du Mali.
Lors de la plénière d'adoption de ce rapport final, qui est aussi la synthèse des travaux, la CEMA n'a pas caché sa colère.
Je relève dans ce rapport qu'il n'a pas été fidèle. Quand on dit qu'il a été arrêté consensuellement que l'Azawad devrait être une entité géographique, une réalité mémorielle. Ça, c'est des acquis de l'accord d'Alger de 2015. Nous ne sommes pas là pour discuter des acquis. Nous sommes là pour avancer. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, si on veut la paix, il faut admettre la réalité. La réalité, c'est que tant que l'Azawad n'a pas un statut juridique et politique, il n'y aura pas de paix.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le rapport lors de la cérémonie de clôture. Pour lui, la question de l'Azawad n'a pas été tranchée. Il souhaite aussi que la situation conflictuelle au centre du pays soit examinée par un comité d'experts qui sera mis en place bientôt.
Je puis vous assurer, la bataille pour la paix, nous continuerons avec tous les frères. Sans complexe aucun, tel n'est pas le luxe qui m'est permis aujourd'hui. Je m'adresserai à chacun et à chacune pour que chacun et chacune puisse apporter la pierre, l'étincelle de son intelligence, sa contribution pour que l'œuvre commune arrive à bon port. J'en prends l'engagement. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, aider notre pays à retrouver la sérénité par la plus belle des victoires sur nous-mêmes, en apaisant nos cœurs et en enchassant les démons de la colère.
L'équipe qui a organisé la conférence d'entente nationale restera sur place jusqu'à l'élaboration de la charte nationale pour l'unité et la paix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Retour sur les relations indo-africaines. 44 diplomates africains basés en Inde accusent le gouvernement de New Delhi de ne pas prendre les mesures nécessaires pour faire face aux attaques à caractère racial visant la communauté africaine dans ce pays. Il y a quelques jours, dans la banlieue de New Delhi, Une attaque a ciblé des Nigériens et cette violence continue à susciter l'indignation sur les réseaux sociaux. Pour analyse, Abdulrahman Dia a joint à Dakar le président de l'association Horizon sans frontières, Boubacar Sey.
La gestion scandaleuse du triptyque immigration, paix et sécurité continue encore de faire des victimes, en Inde notamment avec ces attaques devenues récurrentes sur les ressortissants africains. Horizon sans frontières dénonce effectivement ces violations des droits humains, notamment des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit à la vie est sacré. C'est la raison pour laquelle Horizon sans frontières exhorte les autorités indiennes à veiller à la sécurité et à l'intégrité physique de ces Africains.
Ce n'est pas la première fois que les diplomates africains dénoncent le manque de réactivité du gouvernement indien. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le rappel sera entendu?
Oui, mais bien sûr, il faudrait aller même au-delà du rappel. Il faudrait que le gouvernement indien prenne ses responsabilités. Il y a eu beaucoup de laxisme qui a été noté et dénoncé dans la gestion des flux migratoires en Inde. Donc aujourd'hui, nous appelons au sens de l'honneur et de la responsabilité. Il faudrait que ça cesse. Cette spirale de violence aujourd'hui sur les ressortissants africains doivent cesser impérativement. Sinon, nous allons passer à la vitesse supérieure.
Qu'est-ce que vous appelez la vitesse supérieure?
Oui, mais il faut dénoncer, il faut porter plainte parce que ces attaques sont devenues récurrentes. Il y a un action total. Il faut que les autorités indiennes prennent leurs responsabilités, renforcent les processus d'intégration. Je rappelle qu'on ne peut pas parler d'immigration sans intégration. Et l'intégration devrait être un processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle.
Pour ce qui est des gouvernements africains, qu'est-ce qu'ils devraient faire à votre avis?
Malheureusement, nous l'avions toujours dénoncé, il y a une faiblesse des diplomaties africaines aujourd'hui sur la gestion de ces flux-là. Les Africains, vu ce contexte géopolitique prétendu miné par la xénophobie, le racisme, les discours populistes, l'Afrique brille par son absence en ce qui concerne aujourd'hui la protection de ces ressortissants à l'étranger. Je crois qu'il faudrait une harmonisation des positions en vue d'une diplomatie à la hauteur des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Sinon, malheureusement, nous allons toujours vivre ce genre de situation.
Boubacar Sey d'Horizon sans frontières à Dakar. Réchauffement des relations entre Washington et le Caire. Après 4 ans de relations tendues avec l'administration Obama, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rencontré aujourd'hui son homologue américain Donald Trump. Le chef de la Maison-Blanche ne cache pas son admiration pour l'Égyptien. Les deux hommes souhaitent insuffler un nouvel élan aux relations entre les deux pays. Salwa Jafari a contacté Jean Marcoux. Il est professeur chercheur spécialiste du Moyen-Orient.
Je pense qu'on va surtout parler de dossiers stratégiques, c'est-à-dire le positionnement de l'Égypte, notamment au Moyen-Orient et dans la guerre contre Daesh, le rôle que l'Égypte peut jouer dans la résolution, les tentatives de résolution du conflit entre Israéliens et Palestiniens, le positionnement aussi de l'Égypte par rapport à l'Arabie Saoudite. Hein. Les experts ont dit que apparemment l'administration américaine jouait un jeu à plusieurs bandes, c'est-à-dire essayait d'entrer en contact avec l'Égypte, d'améliorer ses relations avec l'Égypte pour rétablir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite.
Alors, vous l'avez dit, l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, témoignait peu d'égards envers Sisi. L'aide militaire américaine de 1,3 milliard de dollars par an avait même été temporairement suspendue. Aujourd'hui, le président Trump menace de réduire les aides internationales. Va-t-il faire une exception à votre avis?
Eh bien, on va voir, justement. A priori, la rhétorique est pour l'instant très bonne parce que le président Trump était allé en Égypte l'année dernière avant son élection et il avait qualifié Abdel Fattah al-Sissi de type fantastique. Après, il faut voir effectivement si, comme on dit en français, si l'intendance suit et si finalement cela amènera un rétablissement, voire une augmentation de l'aide américaine. D'un autre côté, il faut voir qu'à l'heure actuelle, pendant longtemps, l'aide américaine a été l'une des rentes de cette économie égyptienne en permanence déficiente. Aujourd'hui, cette économie est plus déficiente que jamais, mais elle a des prêteurs, enfin elle a des pourvoyeurs financiers qui sont considérables. Les pays du Golfe, à l'heure actuelle, qui maintiennent l'Égypte à flot avec des contributions qui avoisinent plus de 16 milliards de dollars, alors même que l'aide américaine est de 1 à 2 milliards.
Jean Marcou, professeur chercheur spécialiste du Moyen-Orient.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une Congolaise et une Nigérienne, lauréate 2017 du prix international Femmes de Courage. Ce prix est attribué chaque année par le département d'État américain. La jeune militante congolaise Rebecca Kabugo et le major Aishatu Isaka Ousmane ont reçu leur récompense des mains de la nouvelle première dame Melania Trump. Nathalie Barge.
Considérée comme la plus jeune prisonnière de conscience du monde, Rebecca Kabugo n'avait que 21 ans lors de sa première arrestation en RDC. En février 2016, elle et cinq de ses camarades ont été arrêtés et condamnés pour incitation à la désobéissance civile. Les six membres de la Lucha ont passé 6 mois en prison à Goma.
Ça fait mal, oui, la prison. Il y a des moments où on se sent un peu seul. Mais quand tu penses à la grandeur du Congo, cette population qui est en train de souffrir chaque jour et que tu t'es engagé à faire la lutte, moi, je me sentais un peu soulagée.
Le 19 décembre, Rebecca et 18 autres militants ont été de nouveau arrêtés et libérés une semaine plus tard. Plus déterminée que jamais, elle a déclaré à la Voix de l'Amérique qu'elle ne baissera jamais les bras face aux politiciens.
C'est à nous, la population, de prendre notre destin en main. C'est à moi, c'est à quelqu'un d'autre qui vit cette répression, de se mettre en tête que c'est lui le changement. C'est lui qui doit faire changer les autres. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas confiance aux politiciens. Ce ne sont pas eux qui sont en train de souffrir. Les enfants ne sont pas même au pays. Ils étudient à l'étranger. Quelqu'un a un mal de tête et il part à l'étranger pour aller se faire soigner. Comment il va construire le pays? Comment il va arranger des routes? Ce ne sont pas les hommes politiciens qui vont changer notre situation, notre quotidienne, mais c'est à nous, la population, de se prendre en charge.
Pour Rebecca, l'engagement citoyen est l'affaire de tous, sans oublier les femmes.
Nous sommes en train de mener cette activité, comment sensibiliser les femmes, comment les femmes doivent aussi prendre cette conscience que ce ne sont pas seulement les hommes qui sont là pour changer les choses, c'est à nous aussi de faire notre preuve de courage, notre preuve d'engagement, notre preuve de détermination de faire quelque chose.
De son côté, la lauréate nigérienne Aishatu Isaka Ousmane encourage également les femmes à s'engager dans l'armée et les opérations de maintien de la paix.
Il faut davantage des femmes dans les opérations de maintien de paix parce que quand on parle de maintien de paix, on s'engage auprès de la population locale et qui dit population locale parle d'hommes et de femmes. Donc on a besoin aussi de femmes qui puissent prendre en charge les préoccupations de ces femmes victimes de leurs conflits, des conflits et aussi amener leurs préoccupations afin qu'elles soient prises en compte.
Mère de 3 enfants, Aishatu Isaka Ousmane a servi dans la région de Difa et au Mali au sein de la MINUSMA. Elle souligne que les femmes doivent être présentes aussi dans les sphères de prise de décision.
Il est important aussi de faire participer les femmes dans les maintiens de paix pour qu'elles puissent avoir l'expérience nécessaire et donner leur point de vue par rapport à la question des conflits.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel de Gahima et Lumami, à la console, Rachad Smith. À la présentation, Eric Mandilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Et sachez que dans toutes les larmes, ça tarde en espoir. Portez-vous bien.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.